Hello et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 112. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité cette fois-ci, c'est Jean Clotot, qui a été un grand dirigeant chez L'Oréal et a été président directeur général de L'Oréal Venezuela. Il a été reconnu pour son travail en recevant le chevalier de l'Ordre de Mérite. Il est aujourd'hui cofondateur et PDG d'Urigi. Urigi est une nouvelle forme de réseau social qui permet aux utilisateurs de connecter à travers leurs intérêts et gagner de l'argent. Dans notre entretien, nous discutons de son parcours magnifique, notre expérience partagée chez L'Oréal, ainsi que l'origine et le chemin de Urigi, un réseau à goûter. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Mon cher Jean Clotot, là, on se rattrape des bonnes dizaines d'années, j'ai l'impression, quand c'est la dernière fois qu'on s'est vu, et on a décidé, j'ai décidé avec toi, d'enregistrer notre retrouvaille. Tu es basé à Venezuela, on s'est connu chez L'Oréal. Tu es un homme extraordinaire, selon moi, avec une capacité d'histoire, polyglotte, un meneur d'hommes, un meneur d'énergie et quelqu'un qui est un trailblazer, comme on dit en anglais. Dans tes propres mots, comment tu décrirais toi-même à ce jour-ci, Jean?
Je pense que je suis un chercheur, oui. Je suis dans une recherche de ce qui permettrait aux hommes de mieux se connecter, d'être beaucoup plus riches de leur expérience et aussi de leur projet. Donc, je suis un chercheur. Donc, je travaille vraiment, je définis mon travail comme un travail de recherche, d'investigation et bien sûr d'action, puisqu'il faut des outils pour que cette recherche fonctionne.
C'est cette barbaridade d'action qu'il faut faire. Il faut se mouiller, il faut se salir, il faut faire, il ne faut pas juste réfléchir et analyser. Dans ta vie, Jean, on s'est connus quand tu étais chez L'Oréal. Raconte-nous un peu ton trajet jusqu'alors.
Donc, l'aventure L'Oréal a été fondatrice, parce qu'évidemment, je pense qu'on partage le fait d'avoir fait du L'Oréal comme on fait un séminaire, comme on se retire dans un sacerdoce, et on fait du L'Oréal aussi pour être peut-être écouté plus tard. Donc, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait L'Oréal. J'ai pris conscience que je ne connaissais pas bien mes enfants, beaucoup de temps avec mon travail et pas du tout du temps vraiment de qualité avec mes enfants. Et ça a été un choc. Le moment où j'ai compris que je ne connaissais pas mes enfants, ils étaient grands déjà. Ma fille avait 14 ans et on était allé voir un film qui s'appelle Interstellar de Christopher Nolan. Interstellar. Et donc ce film qui est très très long se passait en même temps qu'un film de beaucoup plus adapté à l'âge de mes enfants. Gabriel avait 13 ans et Sarah 14 ans. Et en sortant du film, je leur demande des excuses de leur avoir imposé un film aussi long et aussi dense. Et mes enfants m'ont répondu, ben voilà papa, la preuve que tu ne nous connais pas, puisque justement, c'est le plus beau film que nous n'ayons vu dans notre vie. Et donc, ça a marqué, si tu veux, un avant-après, parce que j'ai commencé à ressentir que je n'étais pas là où je devais être pour suivre ma vocation, pour suivre mon futur et aussi connecter avec mes racines aussi. Donc, c'est à cause d'un film au cinéma.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as eu un aveu tout de suite ou est-ce que c'était au fil du temps, quelques nuits plus tard, un rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Comment et en conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, parce que ce genre de choses, c'est pas, on va pas prendre nos kicks et nos claques et tout de suite faire un coup de tête, changer tout, parce que bon, on est pratique, pragmatique. Comment est-ce que le voyage a changé à ce moment-là?
Donc, à ce moment-là, la décision est prise, la rupture est consommée, si tu veux. Il y a un moment donné où il y a des éléments fondamentaux qui te font prendre conscience qu'il n'y a plus de retour en arrière. Donc, ça ressemble beaucoup à d'autres relations humaines, puisque la relation avec un emploi comme celui qu'on avait chez L'Oréal, c'était une relation fusionnelle. De entrega total, on se donne complètement. Et ça va prendre 2 ans avant que ça se consomme, mais c'est vrai que j'ai vraiment senti le fait qu'il n'y avait pas de marche en arrière, qu'il n'y avait pas de retour en arrière sur cette décision. Maintenant, le processus pouvait prendre plus ou moins de temps, en suivant les circonstances, suivant les idées, parce qu'il fallait concrètement faire quelque chose, il fallait que ça devienne quelque chose, tout ce temps passé. Mais clairement, je pouvais pas faire marche arrière. Maintenant, l'idée qui provoque, si tu veux, le besoin de changer, elle avait 20 ans déjà. C'est-à-dire la prise de conscience. Peut-être depuis les années 90, depuis Pierre Omidyar sur eBay, j'avais déjà pris conscience que le prochain grand saut technologique n'allait pas se faire sur justement la technologie hardware, mais allait se faire sur les rapports entre les êtres humains. Donc ça, c'est une prise de conscience réelle.
J'apprécie. Comme tu dis, en fait, la goutte d'eau qui fait couler le bain, ben il a coulé avant. Donc, il est coulé d'autres choses, il était rempli d'autres pensées, d'autres aspects. Et la goutte qui arrive, ben, c'était ce moment. Donc, tu as passé, il me semble, à peu près 17 ans chez L'Oréal, 1 an de plus que moi. Donc, bravo, un vétéran de L'Oréal. Si tu réfléchis maintenant plusieurs années après avoir quitté et continué ton trajet, qu'est-ce que tu retirais de ton expérience? Qu'est-ce que tu as amené, apporté L'Oréal, et qu'est-ce que tu as abandonné de L'Oréal?
Oui, c'est intéressant ce que tu évoques, puisque depuis cette pandémie, l'essentiel, ce n'est pas de se concentrer sur ce qu'on apprend, mais peut-être des fois sur ce qu'on désapprend. Donc, ce qu'on déprogramme. Mais je pense que chez L'Oréal, évidemment, j'ai acquis des structures, des organisations intellectuelles, des structures de pensée, des façons d'agir d'un point de vue, disons, dans l'action, c'est très utile. Moi, je résume ça un petit peu au compte d'exploitation. Mais clairement, ce qui est difficile des fois à se dire, c'est que clairement, cet énorme et absolu confort d'une grande organisation où rien n'est réellement grave, puisque tu ne joues jamais ta peau, c'est jamais under the skin, comme dit Nassim Taleb. Donc, le point, c'est ça, c'est que j'ai compris que chez L'Oréal, j'ai appris à ne jamais prendre de risques. J'ai appris à peut-être, oui, t'apprends à gérer la pression humaine ou la pression morale. Donc, c'est vraiment une excellente école pour gérer la pression morale. Je parle évidemment de la réunion NIT, des réunions sans arrêt, pour des sujets franchement qui pouvaient être résolus en quelques mots. Cette pression morale, cette pression entre les hommes, entre les égos, entre les influences, c'est quelque chose qui marque énormément. Donc évidemment, c'est quelque chose que tu retrouves toujours, c'est-à-dire que c'est propre à l'humain, même dans les petites organisations, tu retrouves une volonté d'influence, de prendre l'ascendant sur l'autre, on pourrait appeler ça d'une certaine manière faire de la politique. Mais clairement, tu apprends chez L'Oréal que ce n'est pas ça qui construit l'efficacité, d'une équipe et qui construit l'efficacité d'un business. Donc, il y a beaucoup de choses, malgré moi, je te le dis, que j'ai dû désapprendre de mon expérience de L'Oréal. Il y a énormément de choses qui sont toujours présentes dans la structure, dans une certaine rigueur, dans une certaine volonté de bien faire, dans la conscience ou la prise de conscience que tout ce que tu fais va être jugé, analysé par d'autres. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Donc, de jamais penser que tu es le seul juge sur quelque chose qui va être fait. D'essayer toujours de construire des arguments qui vont aller vers, bien sûr, la confrontation, mais aussi le consensus entre les gens. Essayer de gagner le plus possible de gens à ta cause, convaincre. Je pense que L'Oréal est une excellente école de persuasion. Comment persuader les autres autour d'une action qui va prendre du temps à être mise en route. Maintenant, il faut aussi énormément, pour être accurate, pour être adapté au monde actuel, évidemment, c'est un modèle totalement obsolète. C'est un modèle d'organisation et de... en fait, souvent, je me disais, tiens, c'est marrant, mais le business n'est pas au centre de la conversation. La vraie priorité n'est pas dans la réussite des objectifs des affaires, mais plutôt dans un travail de sphère d'influence, etc., etc. Donc, certes, tu dois désapprendre le confort, tu dois désapprendre le fait que tout ne va pas se faire sans ton direct input. Quand tu travailles dans une grande organisation, eh bien, sur chaque chose que tu fais, il y a 100 choses qui vont être faites par l'organisation, par la machine. Donc, c'est pas pareil, pas du parti, mais de la corporation. C'est quelque chose que tu dois abandonner à toute vitesse. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Moi, je peux te dire que sur 5 ans, je commence maintenant à être pertinent. Donc, la désintoxication du modèle prend du temps. Donc, évidemment, ça t'apporte de l'assurance, ça t'apporte de la résistance mentale, ça t'apporte de la structure aussi dans la façon de construire un modèle financier et de persuader, par exemple, les investisseurs, tous ces rapports avec les stakeholders. Évidemment que L'Oréal est la meilleure école. Maintenant, il y a quand même une toxicité au modèle. Et moi, je rigolais quand on me disait « Ouais, attention, si tu quittes L'Oréal, tu vas être un terrible entrepreneur. Non, ce n'est pas vrai. Je suis un type brillant. Moi, j'ai les meilleures idées. Je ne suis pas comme les autres. Blablabla. » Non, non, non. Quand tu quittes L'Oréal, tu vas devoir apprendre à ne plus vraiment enlever la notion de note de frais. Ne serait-ce que la notion d'une note de frais. C'est-à-dire que la notion qu'un centime qui va être dépensé, eh bien, c'est in fine, quand tu fondes quelque chose, chaque centime, c'est toi qui le paye. Quand tu travailles dans une grosse boîte, évidemment, chaque centime, ce n'est pas toi qui le paye. Mmh. Et donc, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta boîte. Je suis arrivé exactement au même point, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps pour que… Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu comme le dit le fondateur de LinkedIn, qui dit si tu n'es pas…
Hoffman Reed,
qui dit si tu n'as pas honte de tes débuts, de ton démarrage, c'est-à-dire que ça veut dire que tu as démarré trop tard. Eh bien, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai même du mal, vraiment beaucoup de mal. Maintenant, et en ce moment, aujourd'hui, je pense qu'on fête, aujourd'hui, ce matin, on fête les 4 ans du lancement de l'application. Donc, ça fait 5 ans qu'on a lancé le business, Origi. Et 4 ans qu'on a lancé l'outil Origi. Et j'ai du mal à avoir ne serait-ce que des images, des photos, des vidéos du début. Parce que, bien sûr, il y a énormément de cohérence, ça reste la même idée, mais l'attitude, et je sais que le mindset ou le mintère à ce moment-là, bah, c'était un ex-L'Oréal qui était en train d'opérer. Donc, il y a plein d'éléments super positifs. C'est-à-dire que tu crées une start-up en faisant une mini L'Oréal. Donc, tu vas chercher des très hauts standards d'équipement, des très hauts standards de rémunération de tes collaborateurs, de sérieux dans la structure. Mais évidemment, tout cela n'est pas du tout assertif quand tu crées une start-up. C'est-à-dire que quand tu crées une start-up, le plus important, ce n'est pas la ressource humaine, ce n'est pas le bel ordinateur ou le bel espace ou le beau t-shirt. Le plus important, c'est le produit. Donc, c'est vraiment on appelle ça le MVP, Minimum Viable Product. Mais au-delà de ça, c'est la viabilité. Est-ce que c'est du bon pain? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose de délicieux que les gens vont s'arracher? Donc, évidemment, le point de désintoxiquer le modèle antérieur a été pour moi assez lourd à porter. Donc, ce n'est pas un message habituel, parce que d'habitude, tu dis, non, écoute, moi, j'attends presque 20 ans de top exécutif, donc c'était formidable. Évidemment que c'était formidable. Évidemment qu'aujourd'hui, on te prend au sérieux quand tu dis que tu as eu ces jobs avant. Mais il faut aussi être, je pense, même vis-à-vis des stakeholders et des shareholders, il faut être très honnête et il faut être très transparent. D'ailleurs, on a eu un rendez-vous avec un shareholder, un futur shareholder suisse. Il me disait, ouais, comment ça s'est passé? Un peu la même question que tu viens de poser. Et donc, je lui raconte l'histoire de mes enfants, etc. Il me dit, bravo, parce que je t'attendais au tournant. Donc, pour lui, aujourd'hui, le plus important, c'est d'évaluer quelle est la fonctionnalité de ton cercle familial. Parce qu'il va investir dans un type qui est le pilote de son propre navire. Donc, si ce pilote est workaholic un peu déséquilibré d'un point de vue burn-out ou post-burn-out, eh bien, l'investissement va être perdu. Mmh. Et donc, la discussion était là-dessus. Alors, évidemment, en public, je te dirais, mais là, on n'est pas en public, je rigole, mais en public, je te dirais, formidable, 20 sur 20, l'expérience L'Oréal a construit ce que je suis. Bien sûr, ça vaut une bonne centaine de MBA avec des doctorats en cagnotte. Évidemment, si tu dis « j'ai fait HEC » et l'autre te dit « j'ai fait 17 ans de L'Oréal », eh bien, il y en a un qui a gagné, ce n'est pas celui qui a fait HEC. C'est évident. C'est évident qu'il y a des voyages, il y a des gens… Il y a aussi te connaître en tant que le fameux mot manager, mais il y a aussi énormément de choses à décoder, dans le sens où il faut coder, dans mon métier maintenant il faut coder, mais il faut aussi décoder. Et ce décodage prend du temps.
Dans ce que tu as raconté, enfin, il y a beaucoup de choses sympathiques que tu parcours. Un premier, c'était de savoir bien faire. Moi, j'avais l'impression que c'était souvent de parfaire. Et donc, on était beaucoup sur l'idée et moins sur l'action, proprement parler, puisque de toute manière, c'était, comme tu dis, fait par toute une organisation. Et quand tu as parlé de MVP, le Minimum Viable Product, bon, d'abord, j'ai moi eu toujours une réaction viscérale avec cette idée de produit. Car moi, je suis un homme de marque et les produits sont au service de la marque. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ahurissant que l'organisation de la boîte était faite autour de divisions de produits au lieu de divisions de marque. Mais quand tu dis minimum viable product, en fait, ce qui est intéressant, je me dis que L'Oréal est formidable sur deux des points. Faire un bon produit, aller chercher à le faire bien ou mieux. Deux, viable, il faut que ce soit rentable. Donc, on va regarder financièrement. Là où ça pêche, c'était minimum. Parce que minimum, ça veut dire on fait avec. Tandis que L'Oréal, c'était sur maximum. C'était toujours sur le côté parfaire, faire au mieux. On peut toujours faire mieux, bien sûr. Et donc, on va chercher le mieux dans les 6 autres heures de la journée parce que vous n'avez que travaillé 18 heures, ben, il reste encore 6. Et donc, du coup, le burn-out qui vient de ce côté de parfaire donc le maximum viable product. Qu'en dis-tu?
Oui, je, évidemment que j'admire, j'adore, j'ai aimé L'Oréal, tu le sais, dans toute son histoire également. Donc, pour moi, il y a une notion de contact avec l'ADN du produit et du groupe. J'avais du mal avec la notion de multimarque, avec la notion de galaxie de marque, parce qu'évidemment, je trouvais qu'il y avait des pertes de code ADN entre les différentes marques, puisqu'on était dans un environnement où il fallait les combiner. Ensuite, le contact, quand on parle de produits aujourd'hui, on englobe plusieurs choses. C'est-à-dire que si je fais un petit peu si on va en arrière à partir de 2020 dans ma tête, eh bien un produit, c'est une combinaison d'idées, de séquences, de rapports avec les clients, consommateurs ou utilisateurs. Au-delà d'un produit en tant que tel, dans une bouteille ou dans un flacon. Et donc, c'est vrai que le produit aujourd'hui, c'est quelque chose que tu produis, justement. Que c'est une production d'un tas de choses qui font que ce n'est pas seulement le pain qui est délicieux, mais la boulangère, le vin, les ingrédients, l'ambiance… même la température, il y a énormément de dimensions dans ce MVP ou dans ce produit qu'on tient entre les mains quand on entreprend. Dans la notion l'oréalienne, on est dans le produit de consommation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un consommable. Et donc là, c'est vrai qu'à la rigueur, je trouvais que c'était un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu étais dans des séquences… tu avais l'impression que vraiment c'était très répétitif. Ce qui changeait, c'était justement le packaging. Il y avait une énorme insistance sur le packaging, mais déjà, tu avais de l'alcool, tu avais une résine, tu avais très, très peu de fractures technologiques. Et à la rigueur, à un moment donné, évidemment, quand tu commençais à être de plus en plus multimarque, dans mon dernier job, tu voyais un produit arriver chez Lancôme et tu attendais un petit peu et tu l'avais chez Matrix. D'une certaine manière, tu te rendais compte de cette dilution de la notion de produit. Et par contre, je dissocierais bien la partie produit, technologie, du jus, le jus, quoi, si tu veux, de la partie humaine. C'est-à-dire que peut-être qu'une de mes souffrances, c'est ça, c'est que tu avais des produits formidables, mais un environnement humain et moral… pas tellement formidable dans la notion de prendre l'ascendant sur l'autre et cette ambiance théocratique qui a été pour moi très difficile à avaler, puisque dans la théocratie, eh bien, il y a bien un moment où t'as un dieu qui, quelque part, ou plusieurs dieux quelque part. Et donc on perdait la notion de raison, de raisonnement, de proximité dans le raisonnement, d'échange et de proximité avec les hommes. Et donc, tu te retrouvais dans des systèmes, évidemment, de verticalité et d'ascendant moral sur les autres. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus… aujourd'hui, qui dans la construction du bilan, c'est la partie la plus complexe, si tu veux. Parce que d'un côté, il y a des marques formidables, des produits incroyables, des labos qui font un travail formidable… même des applications commerciales, des déploiements commerciaux formidables avec un univers marketing fantastique, tout ça dans un environnement de pression morale difficile. Alors je me pose des questions, et même dans l'organisation que j'ai fait naître, eh bien j'étais un peu comme un scientifique et j'ai retrouvé, si tu veux, les mêmes éléments toxiques, les mêmes réflexes toxiques à échelle de petites équipes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre simplement ou la cause d'un L'Oréal. C'est-à-dire que les femmes et les hommes sont s'intoxiquent entre eux. Et ça te sépare du produit. C'est un peu ça mon aventure aussi dans la start-up. C'est que tout ce qui est en fait tout ce qui te sépare du produit dans une start-up, ça devient vie ou mort. Hein. Ça tue la start-up. S'il y a excès d'argumentation, excès de réunion, excès de pression morale, de ragots, tout ce que tu veux, tout ça, ça va tuer l'exécution. Et tu le vois, des fois, il y a des choses qui sont prêtes depuis très longtemps en technologie et qui ne sont pas déployées simplement parce que les ingénieurs veulent faire sentir au marketing c'est eux les cadors, tu vois. Donc, c'est très compliqué parce que tu dis, mais les gars, on construit une organisation horizontale, il n'y a pas de comité de direction, il n'y a pas de théocratie, et quand même, on retrouve des réflexes que je voyais chez L'Oréal.
C'est l'humain. Alors, il y a deux sujets que je vais aborder avant que nous rentrions dans l'histoire du Régie. La première, c'est un souvenir que j'ai de toi, Jean, qui était ta capacité d'enquêter, rechercher peut-être, sur l'histoire de L'Oréal. Et tu avais, je m'en souviens, tu étais à la recherche de documents, d'archives, et j'ai trouvé ça fantastique. Tu es entouré, là où tu t'assois dans ton bureau, par des produits de la société L'Oréal, l'Apple. J'ai fait une lapsus là. Ça, c'est ma femme qui était chère. Enfin, c'est comme ça. Mais tu as toujours cette capacité de connaître l'histoire et aussi bien dans la culture du pays, la langue, parce que tu es polyglotte à fond, et dans les histoires derrière. Et donc, tu m'as raconté juste avant de démarrer l'enregistrement des godasses qui sont derrière toi, des pompes. Et je voudrais que tu racontes, on ne va pas pouvoir le voir, mais je rajouterai peut-être un lien, tu me donneras une photo dans les show notes, de ces chaussures que tu gardes, des vieilles chaussures que tu as à côté de toi. J'imagine difficilement plein de gens imaginer garder des vieilles chaussures à côté de soi, mais raconte-nous l'histoire de ces chaussures.
Oui, l'important, au-delà de l'histoire, ce sont les objets. Donc, les objets, on parlait de produits. Les objets, ce sont aussi des produits. Et donc, si tu prends les premiers produits de L'Oréal ou les notes de Jean Schueller ou le premier savon de P&G, ce sont des produits. Et ces produits deviennent, avec le temps, des objets. Donc, ils ne vont plus être vendus, ils ne vont plus être commercialisés et ça devient des objets. Et les objets, ce sont des moyens de communication. Donc, pourquoi ? Parce que derrière, il y a une anecdote. Toi, tu as un ring qui est très fort pour toi, qui constitue un totem. Et donc, ces objets, ça devient des ponts de communication et ça te permet justement de faire arriver, de faire des démonstrations, d'être plus efficace dans tes messages et d'être, en fait, d'une certaine manière, de sortir simplement d'une narrativité abstraite et de rentrer dans un narratif du concret. Donc, ça, c'est très important. Et donc, le point des chaussures de Steve Jobs, c'est les New Balance. Donc, là, tu peux les voir. C'est les 992, 992. Et donc, l'important, bien sûr, ce sont les chaussures originales de Steve Jobs qu'il a porté. Il les a portées en 2006 et en 2006 il a fait un vol dans un petit avion privé piloté par une dame formidable qui s'appelait Betty Jo Reed, qui avait sa propre ligne aérienne privée. Et comme cette femme pilote était très, très, très âgée, bah Jobs a présumé sur la réussite du vol et sur le respect du timing. Et donc, il y a eu un pari dans ce vol. Et ce pari a été, eh bien, si vous croyez que parce que je suis âgé, on va arriver plus tard ou que le vol va mal se passer.
Pour ne pas dire femme. aussi.
Et d'être une femme, eh bien, on va parier vos chaussures. Et si on arrive plus tôt que prévu, d'une manière plus efficace que prévu, eh bien, vous avez perdu vos chaussures. Je suis le commandant de bord. Je m'appelle Betty Jo Reed. Et je suis ancien pilote de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, c'est un petit peu, au-delà des chaussures, c'est de raconter l'histoire des préjudices, l'histoire des a priori et l'importance de connaître les gens. C'est fondamental, puisque quand tu connais les gens, eh bien, plein de choses formidables vont se passer. Mais si tu ne veux pas connaître les gens, c'est ce qui t'est arrivé à Jobs, tu perds tes chaussures. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de perdre ses pompes quand on n'approfondit pas en face de qui on est, avec qui on est en train de créer un lien. Donc, ces chaussures me servent énormément à expliquer ce qu'on a construit, l'univers digital, où le plus important, ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas tes actifs mobiliers, immobiliers, ce sont tes histoires. Eh bien, qu'est-ce qui était important dans cette anecdote? C'est que si Jobs avait demandé à la dame « Qui êtes-vous ?», eh bien, la dame lui aurait répondu « Je suis Betty Jo Reed, fondatrice de Women Air Force Special Pilots ». Eh bien, Jobs n'aurait pas perdu ses chaussures et il n'aurait pas perdu son pari et il aurait créé une amitié formidable, alors qu'il n'en reste qu'une paire de pompes. Et c'est ça un peu le rôle d'avoir des objets. Ce n'est pas de dire « je collectionne des éléments Apple parce que j'ai un culte pour Apple », pas du tout. J'ai découvert, on parlait de MVP, j'ai découvert que Jobs ne s'intéressait ni à la technologie, ni au marketing, ni au design. Alors les gens me regardent et me disent « qu'est-ce qui va nous sortir ? Comment est-ce possible qu'ils disent que Jobs ne s'intéresse absolument pas au marketing, au design et à la technologie ?» Eh bien, je résume, Jobs n'a pensé qu'à une seule chose depuis la création de la première boîte en bois. Ici, on a une réplique de la Apple Number One. C'était la portabilité et l'intégration. Il voulait absolument que la technologie soit portable tout en un, soit intégrée, all in one. Et ça, personne ne le dit parce que tu ne peux pas le découvrir si tu ne touches pas les objets qui ont été importants pour Steve Jobs. Tu ne peux pas le découvrir si tu n'as pas avec toi le sac de 1984 dans lequel il a mis le premier Macintosh. Donc, je peux même te faire je te passerai une visite guidée. Eh bien, ce premier Macintosh, le 1984, est lancé dans un sac. Le Apple IIc, qui est le premier laptop antérieur au Macintosh dans les années 80, est lancé également dans un sac. Donc, on va exagérer, on va vraiment accentuer la portabilité. D'ailleurs, tu vas voir que dans les produits de Jobs, même les iMac, là, il va être portable. Il y a tout de suite une poignée.
Une poignée.
Cette poignée est très importante parce que c'est cette poignée qui va porter Jobs à son intérêt pour le Walkman. Et le Walkman va lui ouvrir les portes de l'iPod, l'iPhone, etc. Et donc, c'est important, si tu veux, de mon propos initial, c'est concentre-toi sur cette invariable, sur cette chose qui ne va jamais te quitter. Et si moi, je te dis, ma seule obsession, c'est d'inventer un outil pour réduire, pour créer de la prospérité, pour réduire la pauvreté et la fracture sociale, et que je m'en fous si tu l'appelles social media, social network, si c'est une app, si c'est pas une app. En fait, moi, ce que je te dis, c'est que mon obsession, c'est ramasser les pièces du puzzle, inclut la blockchain, pour réduire la pauvreté dans le monde, et que je ne comprends pas que si tu es une personne éthique, si tu es une maman qui aime ses enfants, si tu es capable d'avoir fait des enfants qui soient des bonnes personnes, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un dividende dans ton compte bancaire, justement. Je ne comprends pas que l'humanité ne soit pas organisée pour créer de la richesse et nourrir, en tout cas, nourrir ses meilleurs éléments, ces femmes et hommes de bonne volonté. Donc ça ne va jamais me quitter. Je vais faire ça, je te le garantis, jusqu'à la tombe. Je ne vais jamais arrêter de faire ça. Donc, Kurigi soit un succès planétaire parce que c'est une application formidable, génial, super, bah, je serais très content. Mais ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est vraiment comment faire pour, je répète, réduire la fracture sociale et augmenter la richesse que peut générer l'éthique, le bon comportement, l'apport de valeur, etc. Donc, c'est la même chose pour Jobs. Donc, je vais utiliser la métaphore de toute l'histoire Apple. Donc, ici, tu as l'iPhone 1 dans son pack original, intouché, intact. Tu as des objets qui vont réveiller l'intérêt. Ça, c'est un poster original. Il est tout tramé. Il a une trame spéciale. Ici, il y a le processeur de 1978 original dans ce cadre. Mais mon propos, ce n'est pas de te parler d'Apple. Ce n'est pas de te parler de Steve Jobs. C'est te parler de l'invariable. Et donc ça me permet de faire des conférences à des entrepreneurs. On est dans la semaine de l'entrepreneurship. Et comment, justement, un entrepreneur ne doit se concentrer que sur l'invariable. Alors, s'il est là à courir des shark tanks et à faire des pitch decks et à faire des t-shirts avec son logo, il est perdu parce qu'il peut pas, tu peux pas faire toutes les foires à l'innovation. Tu ne peux pas remplir des dossiers de financement toute la journée parce que tu ne vas pas te concentrer sur ton invariable.
C'est clair. J'adore ces histoires, évidemment, Jean. Tu es un storyteller sine qua non. Mais j'ai encore une dernière question avant d'arriver sur Régie. Mais peut-être c'est lié. 2016, tu reçois la Légion d'honneur. Et j'ai l'impression que tu l'as reçue dans la salva. En tout cas, c'est la photo que j'ai.
L'Ordre national du mérite. L'Ordre national du mérite. C'est un petit peu.
Oui, mais enfin, d'accord, ok. Mais je voudrais
c'est la boîte.
Tu vois que je ne connais pas suffisamment bien, mais dis-nous comment tu es devenu chevalier de l'Ordre national du mérite.
Bon, tu es décoré de l'Ordre national du mérite par la France sur un parcours très long. Donc d'abord, c'est une décision que prend justement la Légion d'honneur sur le mérite des gens. Donc, c'est formidable parce que ça se fait sur la durée. En général, ça se fait après 20 ans de service, de service à la France, et ça se fait sur la base de la nomination de tes pairs. Donc, c'est très intéressant parce que tu vas parler de méritocratie et tu vas parler aussi de peer-to-peer, qui est un des piliers de ce qu'on va appeler sharing economy, qui me passionne, et aussi passion economy. Le nouveau grand terme qu'on doit utiliser aussi. Et donc, le mérite qui nourrit mon propos intérieur, dont je te parlais de l'éthique et de l'apport de valeur dans la narrativité d'un pays, et la cooptation des pairs va être célébrée par une médaille qui s'appelle l'Ordre national du mérite, justement, qui concentre. De Gaulle a concentré toutes les médailles qui existaient jusqu'alors. Donc, tu avais la médaille de l'agriculture, la médaille du métier, la médaille du boulanger. Tu avais plein de médailles. Eh bien, il a groupé toutes les médailles et il a dit « La France honore ceux qui le méritent ». Et donc, on concrètement rentre dans cette notion de méritocratie. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est un titre qui est très important pour moi parce que c'est d'une certaine manière se dire que malgré le fait qu'on soit des grands originaux, qu'on soit toujours en dehors du cadre, un petit peu hors registre, qu'on soit perçu comme des désordonnés ou comme des gens qui ne sont pas tout à fait disciplinés quand il faut, eh bien malgré ça, c'est un peu la même histoire de L'Oréal. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce et j'ai quand même réussi à diriger une filiale. Donc, tu te dis, bon, pareil, la France, c'est quand même une réalité fantastique parce qu'elle reconnaît la différence, elle reconnaît la diversité grâce justement à cette notion de mérite et de constance et de persévérance. Donc, voilà l'histoire de l'Ordre national du mérite. Donc, tu es nommé par le journal officiel, par le président de la France. Donc, il y a une liste de gens. Et cette liste est assez courte d'ailleurs. Et donc, tu es nommé par tes pairs. Donc, il faut, à ce moment-là, j'étais président des conseillers du commerce extérieur. Et c'est vrai qu'il y avait une belle alchimie. Donc, tu peux être aux confins du monde et malgré ça, la civilisation française est capable d'honorer le mérite. Donc ça, c'est assez formidable, c'est tout à l'honneur de ce que veut dire la France.
Je t'en félicite, Jean. Alors, Origé, qu'on l'appelle média social ou autre, comme tu dis, une app, ça fait 5 ans à peu près que ça existe. Tu as un purpose, une raison d'être qui est extrêmement puissant. Raconte-nous le démarrage, l'histoire qui, où un jour tu as tourné à ta femme ou je ne sais pas qui, et comment dire, voilà, allez, on y va.
Oui, alors après, ce type de grand virage prend du temps, comme je te disais, donc ça a pris une vingtaine d'années, puisqu'il y a quand même un propos de Pierre Omidyar, le fondateur de eBay, avant Google et Facebook, qui dit, premièrement, il dit « Maybe you have a fortune in the attic. » Peut-être que tu as une fortune dans ton grenier et tu n'en profites absolument pas. Et ensuite, il dit « Je voudrais créer un environnement, évidemment, virtuel, digital, numérique, où les utilisateurs puissent créer, développer des opportunités économiques. » Opportunités économiques. Donc moi, ça m'a jamais quitté parce que après, on est dans la dynamique L'Oréal, on travaille, on fait son job, et en même temps, on ouvre son premier LinkedIn, on crée son premier Facebook, après on a son Instagram, on commence à avoir des réseaux sociaux, tes enfants, donc on est dans Internet, et à in fine, donc après. On commence à voir arriver la gig economy, donc tu as Airbnb, Uber, tu as la blockchain qui commence à devenir pour moi réellement une philosophie de la confiance, en tout cas orientée à ce moment-là au Bitcoin. Tu commences à voir les crowdfunding, donc tout ce qui est GoFundMe, etc. Et tu commences à sentir... Et je commence à sentir beaucoup de pression dans ma tête parce que je me dis, mais où est Pierre Omidyar? Où est cette fantastique idée de se dire, il faut que les gens découvrent la fortune qu'ils ont dans leur grenier. Donc, pour moi, le grenier, c'est mon enfance dans la forêt vierge. C'est Minter et la bague de son grand-père. Donc, toutes ces séquences, je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce que l'idée, en fait, quand Minter raconte son histoire, ou quand Jean raconte son histoire, ou quand tous les gens qu'on aime racontent leur histoire, et quand tous ceux qu'on connaît racontent leur histoire, eh bien tout ça, ça ne devient pas instantanément une banque de vie. Ça ne devient pas instantanément une sorte de, pourquoi pas même de monnaie, d'échange, puisque le plus important, ce n'est pas Minter et son histoire ou Jean et son histoire. Le plus important, c'est quand Minter raconte son histoire, ça crée un pont, l'histoire devient indépendante. C'est comme quand toi, tu écris ton livre, c'est-à-dire ton livre ne t'appartient plus. Et bien, de la même manière, je pense que les gens... j'ai commencé à me poser cette question, comment faire de la vie un actif? Et donc, ça devient des fois une simple idée, et petit à petit, ça devient de plus en plus intense, et petit à petit, ça devient un produit, et je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Et donc, avant la création d'Origi, je présentais toujours dans mes conférences un slide, un PowerPoint slide, parce que les gens te demandaient, comment tu as fait pour devenir président de L'Oréal, ou comment tu as fait, ta, 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 ta. Donc, tu racontes les steps, tu racontes les étapes. Donc, tu dis, on est en 2000, eh bien, avant 2000, il s'est passé ça. On est en 2010, donc en 2009, il s'est passé ta. Et tu commences à rapporter ton enfance, tes expériences avant L'Oréal, ton premier job. Tu commences à mettre, après, je commençais à mettre mes mentors, les gens qui comptent pour moi, Minter Dial. Je commence à mettre des rencontres, je commence à mettre d'autres informations. Ensuite, je commence à faire une petite ligne, tout ça dans Excel. Ah ouais, mais pourquoi on ne met pas les salaires? Donc, on commençait à mettre les revenus et les jobs et les titres et les blablabla. Et à un moment donné, évidemment, comme j'ai eu la chance d'animer une conférence pour la Tulane University sur l'entrepreneurship, etc., et à l'INSEAD. Et donc, je commençais à me dire, tiens, mais ce truc-là qui s'est passé en 2015, je l'avais dit en 2012. Ah, c'est curieux. Et donc, je commençais à mettre des choses que je voulais qui se passent dans le futur. Donc, j'ai commencé petit à petit à mettre des éléments de ce qu'on pouvait appeler, donc les gens rigolaient, on pouvait appeler le CV du futur. Dreams. Alors, merde, on va mettre quelque chose de fantastique. On va pas seulement parler des histoires, mais on va parler du futur. Alors, pourquoi ? Parce que, évidemment, je voulais inspirer les jeunes à être plus ambitieux sur même des jobs qu'ils voulaient faire dans le futur. Et Jean, comment tu as fait pour devenir directeur général ? Blabla. Et donc, je lui disais, mais comment toi, tu vas faire pour toi devenir directeur général ? Et donc, tout ça, ça commence à construire un Excel et un slide assez fantastiquement complexe. Et un jour, un ami me dit, mais tiens, ça serait bien quand on fasse une app. Je dis, c'est quoi une app ? Il me dit, ben, tu sais, les applications dans les téléphones intelligents, dans les smartphones, donc tu as des apps pour tout. Donc, tu as une app pour commander à manger, tu as une app pour lire le tarot. Donc, fais-toi une app justement pour que les gens puissent faire leur timeline. Et donc, j'ai commencé à bosser là-dessus. Et fin 2014, j'ai fait le premier draft de cet univers où j'avais mis d'ailleurs Richard Branson comme personne qui m'inspirait. J'avais mis une astronaute qui s'appelle Anouchi Ansari, qui est devenue notre premier actionnaire. Et donc, j'avais mis mes enfants, ma femme, etc. Donc, c'était assez formidable. Et donc, voilà comment c'est né. Et de fil en aiguille, tu t'aperçois, donc j'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Gilles Fievé. Gilles Fievé est un général d'état-major qui doit être proche du siècle d'âge. Il doit avoir une centaine d'années. Il est toujours actif. Et le général Gilles Fievé t'instruit sur la stratégie. Et dans la stratégie, il y a quelque chose qui s'appelle la gestion du temps. Et gérer le temps se fait suivant une logique. Et donc, tu as des éléments logiques qui disent, bon, hier, il s'est passé ça, et demain, je voudrais qu'il se passe ça. Bon, très bien. Et ça, c'est le temps simple. Mais en stratégie, tu te poses d'autres questions. Et donc, tu commences à parler du passé comme quelque chose de vivant qui continue à se passer. Et tu commences, et donc ça s'appelle la narrativité, et donc tu rentres dans une logique très complexe parce que tu commences à parler du futur comme quelque chose qui s'est déjà déroulé. Ça s'appelle la prospective. Et donc, en stratégie, JFV m'a appris à travailler sur ce qu'on appelle le time rift ou la brèche stratégique ou la petite faille du temps qui se passe au temps présent où finalement, toi et moi, on est dans cet entretien, on va parler de choses qui se sont passés entre toi et moi et de choses qu'on voudrait qu'il se passe entre toi et moi. Mais le plus important, c'est maintenant, c'est le présent. Mais le présent, il va changer de tête si et seulement si on apporte des rêves et des histoires, du narratif et du prospectif. Et quand j'ai découvert ça en stratégie, je l'ai appliqué en Iran, je l'ai appliqué au Pakistan, je l'ai appliqué en Syrie, je l'ai appliqué en Roumanie. J'ai appliqué constamment ces deux éléments. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Et mets-le en contact avec ce qui a pu se passer. Et donc, tu crées une sorte de réaction chimique. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis un chercheur. C'est-à-dire que tu combines des histoires et des projets, tu combines des récits et des rêves, et tout ça, ça crée des choses formidables au temps présent. Mais ça, le commun des mortels, il ne peut pas le faire. Donc, il fallait créer une application pour petit à petit dire aux gens, eh bien, ça serait quand même pas mal que tu postes le futur. Ça serait quand même pas mal que tu dises que le week-end prochain, tu veux faire une fête avec tes copains. Ça serait quand même pas mal que tu mettes les choses que tu veux aller à Medellín, que tu veux faire tes études de ci, de ça. Et tout ça, ça développe dans la plateforme un truc formidable qu'on a appelé le potentiel. En clair, tu grimpes, tu gagnes des points, tu montes de niveau en fonction de ta capacité à combiner des publications du futur et du passé, à créer des interactions, à publier des choses intéressantes et à augmenter ta pertinence dans le réseau, puisque tout ça n'a de sens que si d'autres s'intéressent à nous. Nous, on va raconter nos histoires et nos projets, Mais si personne n'écoute et personne ne s'intéresse à notre récit, ça n'a aucun intérêt. Donc, on ne va pas gagner en potentiel. Donc, c'est pour ça que je te dis, la grande découverte, c'est d'avoir porté ça dans la technologie. Et la naissance se fait par et grâce à L'Oréal, donc grâce à ces conférences que je faisais sur mon CV du passé et mon CV du futur. Et donc, évidemment, les jeunes étaient tous enthousiastes parce que je leur ai finalement appris à s'inspirer en fonction de leur passé pour construire leur futur. Et l'histoire de Gilles Fievé, qui est formidable, parce qu'elle t'apprend la stratégie appliquée à la vie.
En t'écoutant, Jean, j'ai un élément qui me charrie, c'est l'ambition. Donc, c'est-à-dire de ma projection. Et surtout quand on est dans la pauvreté, la projection vers l'avenir, les rêves amenés à une ambition, ça paraît loin. Comment faire face à ça? Et puis, je vais dire sur une échelle plus basique, prosaïque, dans le monde moderne, privilégié, je trouve qu'il y a un certain manque d'ambition. Enfin, c'est ce que j'éprouve dans les gens. Donc, même si on n'est pas pauvre, il y a parfois un manque d'ambition.
En fait, il y a une peur du futur. Le futur fait peur. Donc, évidemment, si tu prends une personne qui a perdu son emploi, qui a perdu sa vie et qui se retrouve en situation de fracture et qui devient un ivrogne dans un trottoir, ça va être difficile de lui donner un téléphone, un smartphone et qu'il télécharge une application, qu'il aille se créer son profil sur Internet pour sortir de cette situation de misère. Il est clair que parler du futur fait peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le digital, dans le numérique, personne ne parle du futur. Donc, même Facebook ne te dit jamais « qu'est-ce que tu veux faire ?» Donc, ils te disent « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et de temps en temps, on te fait un petit rappel sur ce que tu as fait. Mais bon. Donc, clairement, l'ambition, le vouloir plus, c'est « happy few ». Donc, c'est un exercice de « happy few ». Ce qui est très intéressant, c'est que on est dans un schéma où il y a pas que l'ambition personnelle. On est dans des schémas de plus en plus où les gens se posent des questions sur leurs enfants, sur leur famille, il y a une dame qui m'a appelé du Guatemala il y a quelques mois qui me disait j'adore votre application, c'est formidable. J'ai reçu d'ailleurs une première contribution parce qu'il y a un aspect instantané monétaire dans l'application. Donc, tu peux recevoir où que tu sois sur la planète à partir de 1 dollar une contribution, soit pour de la valeur que tu crées, des services que tu proposes, des produits que tu proposes, des livres que tu proposes, des cours ou simplement de l'aide que tu demandes. Donc, c'est totalement polyvalent. Elle me disait, je suis très contente, merci beaucoup, je suis ravie. Mais vous savez, moi, je n'ai pas tellement envie de parler de mon passé. Donc, pour moi, c'est un blackout. Je ne veux pas parler du passé.
Douloureux.
Et je ne veux pas parler, je n'ai pas de rêve, je n'ai pas de futur, je n'ai aucune ambition. Je suis une femme de ménage, je nettoie des maisons. Alors moi, je lui ai dit, je vous respecte énormément, je comprends ce que vous me dites. D'ailleurs, ça me touche. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous faites ce blackout sans indiscrétion? Vous n'êtes pas obligé de me dire qu'est-ce que vous êtes en train de bloquer. Mais elle me dit, mais c'est très simple. J'ai été prostituée depuis l'âge de 8 ans et violée à maintes fois. Donc, pour moi, je ne peux pas raconter cette histoire. Ça me fait mal. Ça me fait terriblement mal. Et je n'ai aucun rêve personnel. Je ne pense qu'à ma fille. Et je lui dis, et votre fille, parce que j'étais un peu inquiet sur sa fille. Elle dit, ma fille, elle est au MIT. Donc, je veux qu'elle réussisse sa vie. C'est ma seule ambition. Mais vous imaginez, vous êtes formidable. Vous êtes une femme exceptionnelle. Je vais, Alors, je lui disais, bon, il y a une statue con usted. Je lui disais, je vais faire une statue. Vous êtes ma nouvelle égérie. Je vais vous mettre en photo dans ma communication. Il me dit, surtout pas. Mais je lui dis, mais c'est formidable ce que vous êtes. Vous êtes capable d'avoir une fille qui est au MIT. Donc, vous l'avez élevée, vous l'avez nourrie en nettoyant des maisons. Vous êtes capable de vous réveiller tous les jours, de vous doucher, de prendre un petit déjeuner, d'avoir la force d'aller nettoyer la maison des autres, malgré cette enfance terrible, ce trou noir. Et donc, vous venez de tout dire. C'est-à-dire, d'une part, vous m'avez parlé de votre histoire en quelques fractions de phrases, et vous m'avez parlé de votre rêve en quelques fractions de phrases. Eh bien ça, sachez-le, que ma vocation, c'est que ça ait la même valeur qu'un salaire de top exécutif. Pourquoi ? Parce que ça a fait bouger Minter, ça a fait bouger notre audience, ceux qui écoutent ce podcast, ça a fait bouger les gens simplement en racontant cette histoire. Donc ça veut dire que cette histoire, si ça fait bouger les gens, si ça fait prendre conscience aux gens de la chance qu'ils ont peut-être d'avoir eu une enfance un peu plus sympathique et avoir un boulot peut-être un peu plus sympathique, eh bien de se réveiller, de prendre conscience de la chance qu'ils ont et de les requinquer en énergie, eh bien vous avez fait le boulot. Et c'est ça le principe. Donc c'est pas aller chercher, tu as raison, l'ambition, le rêve, je veux aller dans l'espace, je veux être astronaute, je veux réussir à être milliardaire, etc. Mais des petits éléments, des micro-points qui permettent aux gens de prendre conscience que peut-être que leur vie vaut beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Peut-être par imitation, mais c'est le seul environnement où tu vas rencontrer digitalement des choses qui ne se sont pas passées encore. Si c'est un entrepreneur, il va dire « je voudrais bien que vous achetiez mon produit ». Donc, il peut poster son petit gâteau ou son travail de menuiserie ou de mécanique ou de tissu et te dire dans la description, ça vaut $5 de recevoir ce produit. Donc, le futur, ce n'est pas simplement des projets, des objectifs fantastiques. Ça peut être des choses extrêmement simples, mais qui vont aider cette personne à proposer ce dont elle est capable et à générer aussi une opportunité économique.
Ce que j'entends dans cette histoire de cette femme de Guatemala, c'est que tu as raccordé l'histoire de son passé à l'ambition de son rêve pour sa fille, qui est juste remarquable. Et le rêve, son histoire du passé, a beaucoup moins de valeur. Et donc, c'est ce raccord qui est juste incroyable dans ce que tu racontes.
Brillant.
Et quand tu parles des produits, de tes chaussures de New Balance ou l'histoire de Steve Jobs, tout ce qui est de l'arrière, ça a une importance pour nous. Et je pense qu'il y a un mot qui me paraît important dans ce qu'elle a dit et ce que nous avons vécu en tant qu'employés de chez L'Oréal, manager en tant que tel, c'est une capacité d'être vulnérable. Car en fait, nous, on est parfait. Regarde-moi. Et c'est ça que je vends. Et je fais performance, résultat. Eh bien, ma capacité d'avouer que j'ai un problème, que j'ai une addiction, que j'ai perdu des choses, des personnes, de la maladie, tout ça, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas noble. Or, en fait, il n'y a rien de plus noble que de raconter sa vulnérabilité.
C'est brillant ce que tu dis, parce que au-delà de la noblesse et de la beauté du geste, c'est la valeur que ça génère. C'est une mine d'or. Alors, on nous apprend à être parfait. Tu as tout à fait raison. On nous apprend à être parfait. Et en fait, on est très pauvre de cette perfection. Parce qu'il n'y a rien de plus aburrido, de plus ennuyeux que quelque chose de parfait. C'est comme disait mon père, ce sont des tuyaux lisses. C'est tout bien. C'est comme un plexiglas. Alors que l'aspérité qu'apporte cette vulnérabilité, et je pense que peut-être qu'un des regrets chez L'Oréal, c'était de pouvoir discuter sur les erreurs, sur faire un peu, tu sais, les fuck-up nights. Faire un fuck-up night L'Oréal, ça serait cool. Je ne sais pas s'ils ont évolué un petit peu, mais ça leur ferait énormément de bien de faire des fuck-up nights, tous les lancements ratés, l'argent jeté par la fenêtre. Mais clairement, la vulnérabilité, c'est peut-être c'est peut-être le fortune in the attic de Pierre Omidyar. C'est cette fortune du grenier. Ce qui est important, c'est pas, et je te dirais même plus, je vois ma femme, on a notre troisième bébé présente de l'autisme, Abel, et peut-être qu'il va être aspic ou neurodivers. En tout cas, il n'est pas typique, il est atypique. Donc, évidemment, quand tu prends ça, il a 3 ans, donc quand tu prends ça dans les dents, il y a un an et demi, eh bien, tu pleures, tu dis « Merde, mon enfant n'est pas parfait, mon bébé n'est pas parfait, ça va pas être facile, ni pour lui, ni pour nous. Le regard des gens, alors, il me regarde pas dans les yeux, il parle pas, il dit pas papa, maman, il dit pas merci. » Et donc tu pleures, et tu pleures de cette vulnérabilité. Et donc, il y a une affiche que j'avais publiée avant de savoir que Abel était atypique. J'avais publié une photo où je prends le bébé dans mes bras et j'en fais toute une histoire en 2017. Et aujourd'hui, je me dis, merde, c'est formidable, c'est fantastique. C'est cette vulnérabilité. Ma femme vient de facturer pas mal, elle vient de payer pas mal de choses ce mois-ci grâce à ses cours de thérapie pour les enfants atypiques. Donc, elle a numérisé, elle a créé tout un univers dans Origi, mais aussi sur Instagram, qui s'appelle Maman Educa y Juega, où elle parle de son travail, ce qu'elle fait avec l'enfant pour l'aider. Enfin, c'est fantastique quand même. Ma femme est boulangère. Elle doit abandonner la boulangerie parce que mon fils est intolérant au gluten, à ce qui compose le pain. Et donc, elle se dédie au bébé et elle réussit quand même à transformer cette vulnérabilité en quelque chose qui a payé les courses du mois, quoi, le marché. C'est formidable. Elle a fait un cours international. Il y avait des mamans en toute l'Amérique latine qui sont connectées comme nous en ce moment grâce à cette vulnérabilité. Et Daniela, elle n'a pas fait Harvard. Elle n'est pas norvégienne. Elle est vénézuélienne. Tu vois, elle n'est pas danoise, de bonne famille. Non, c'est une femme qui a fait ses études, mais c'est quelqu'un de totalement normal, qui a eu une vie très difficile avant de me connaître, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant ce que tu viens d'exprimer. Et peut-être que le tweet du jour, c'est la vulnérabilité, c'est la nouvelle richesse. Et grâce à des éléments comme la pandémie, grâce au numérique, grâce à la technologie, donc aujourd'hui, que tu aies 90 ans, que tu sois en fauteuil roulant, ça n'a aucune importance. On est tous les deux connectés. Que tu sois à 8000, 9000 kilomètres de moi, ça n'a aucune importance. Donc, tous ces problèmes, puisque bon, il faudrait avoir beaucoup d'argent pour voyager, se rencontrer. Là, peut-être que notre premier grand next step d'investissement se fait parce qu'on est dans la jungle. Donc, il y a un VC passionné et passionnant qui s'intéresse justement à la création de cette nouvelle richesse grâce à la blockchain, donc à la certification de la confiance, et qui trouve dans Origi la solution qu'il cherchait depuis longtemps. Parce qu'il y a un côté relation humaine, c'est pas que une plateforme, blabla. Donc, formidable. Donc, la vulnérabilité dans un pays aussi compliqué, aussi dangereux, bah, peut-être va devenir notre première richesse.
Jean, pour terminer, juste Origi, il est disponible dans quel pays, quelle langue, qui peut s'abonner ou aller pour devenir membre, participer dans cet magnifique voyage?
Donc, depuis le 1er janvier, on est absolument planétaire. Donc, aujourd'hui, on va passer... Cette année, on va être 50 000 personnes connectées. Il y a tous les pays de la planète ont au moins, on a fait une statistique grâce à Google Analytics, tous les pays de la planète ont au moins un utilisateur, pas deux, mais un au moins.
Ça commence par là.
Oui, il y a des gens au Bangladesh qui ne parlent pas espagnol, ni français, ni anglais. Il y a des gens au Nigeria. Il y a des gens au Kenya, Ouganda. Il y a des utilisateurs très actifs au Ouganda. Donc, les gens sont partout. C'est totalement gratuit. C'est universel. Tu peux avoir accès, bien sûr, sur Apple Store, Google Play Store, mais aussi sur n'importe quel navigateur. C'est gratuit, ça prend entre 8 et 10 secondes, 12 secondes de s'inscrire. Tu peux créer un profil de ce que tu veux. Ça peut être, je veux créer un user de mon livre, je veux créer un user de mon voisinage, de ma rue, de mon édifice, de ma maison, de ma famille, de l'école, de l'ONG. Donc, il y a tout type d'utilisateurs, des organisations, des individus, des collectivités, il y a même des églises qui sont connectées. Donc, il y a beaucoup plus que 50 000 personnes. Donc, si on compte les profils collectifs, on doit dépasser les 150 000 personnes, 160 000 personnes connectées. Il y a une église au Mexique où ils sont plusieurs milliers à se grouper autour du profil Origi. Origi veut dire l'espace partagé en Yanomami. En Népal, ça veut dire la lumière. Donc, c'est très intéressant. C'est un mot universel. Et aujourd'hui, l'idée, c'est sortir. C'est vrai que la naissance de la plateforme se fait depuis Caracas. Donc, tu as beaucoup de contenu en espagnol. Il y a un bouton dans l'application mobile pour traduire instantanément la description et le titre pour comprendre de quoi il s'agit à chaque publication. De plus en plus, tu commences à avoir une petite communauté en France, une petite communauté en Angleterre, le Nigeria. C'est la grande communauté anglophone qui commence à naître en ce moment, surtout autour de la femme. Je suis membre du board de Dream Girl Global, qui est une NGO nigériane et indienne, justement de soutien aux jeunes filles pour combattre le mariage, la violence et leur ouvrir le monde grâce au mentorship. Donc, c'est fascinant, etc. Donc, c'est vraiment universel, accessible à tous, gratuit. Origi, ce n'est pas avoir 100 followers, 1000 followers sur ton compte, c'est avoir peut-être un seul follower qui s'intéresse à ce que tu es en train de publier. La particularité d'une publication dans Origi, c'est qu'un seul poste peut avoir l'ensemble de la bibliothèque nationale. C'est comme l'iPod, un seul poste peut avoir 500 000 chansons. Tu peux mettre 500 000 voice notes dans un seul poste. Tu peux mettre toutes les vidéos de la longueur que tu veux. Si tu es cinéaste, tu peux mettre 10 heures de vidéos si tu as envie sur une seule publication. Des images en haute définition, des PDF, tu peux mettre l'ensemble des articles que tu veux, des livres entiers peuvent rentrer dans une seule publication. Donc, tu peux être un utilisateur finalement très, très, très peu prolixe en quantité de publications, avoir une seule publication. Cette unique publication peut être aussi ton canal pour recevoir des paiements, pour recevoir on appelle ça des contributions libres, c'est-à-dire qu'on peut te verser $1 ou $10 000. Chaque apport à partir de lundi, parce qu'on a changé le business model, on a éliminé toutes les commissions, donc chaque apport est net, c'est-à-dire qu'on t'apporte $1, tu as exactement $1, donc si tu es une maîtresse d'école au Kenya, tu vas recevoir exactement $1 que Pablo n'a pas voulu payer au Starbucks Coffee de Madrid. Donc, il a envoyé ce dollar à la maîtresse d'école au Ghana. Donc, on a voulu cette instantanéité de l'apport. Ça peut être un paiement, ça peut être des relations commerciales. Zéro commission. Donc, tu as dans ton profil, tu as un wallet, un e-wallet, où tu reçois ce dollar. Ce dollar est backé à Londres. Donc, on a créé un grand wallet avec notre banque à Londres et on audite grâce à PayPal. Donc, PayPal nous permet de faire des transactions entrantes. On va ouvrir à Stripe. On est en discussion avec d'autres plateformes pour Payoneer pour permettre les apports divers et aussi des apports en Bitcoin et autres cryptos. Et toi, tu es soit cette tasse de café, soit une paire de chaussures, soit une ONG, soit une maîtresse, soit une école, soit une église. Tu reçois, soit un livre, tu reçois les fonds dans ton wallet. Et donc, c'est formidable parce que pour une famille, ça permet de gérer des fonds à plusieurs. Et après, pour faire le withdraw, là, tu payes une commission de 10%. Le withdraw se fait pour l'instant sur un compte PayPal. Ça peut être ton PayPal, mais ça peut être aussi le PayPal de n'importe quel fournisseur. Tu peux faire un withdraw partiel du montant souhaité. Donc, on a créé, si tu veux, modestement, l'argent universel, très simplement.
Mais le business model pour toi n'est pas sur la commission, j'imagine. C'est le business model pour toi parce que si un cinéaste se mettait à livrer 10 heures de film, ça doit être dans le cloud, ça doit être payé pour les serveurs et ce n'est pas les 10% d'une commission qui va te payer tout ça. Comment est-ce que tu fais et quels sont tes besoins par rapport à ça, Jean? Parce qu'on est homme à homme en train de parler entrepreneuriat. Est-ce que là-dessus, il y a si des gens qui écoutent, qui ont envie, qui ont écouté jusqu'alors, qui ont envie d'aider, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire par rapport à ça?
Alors, le business model pour l'instant, donc c'est à chaque fois qu'une personne va retirer ou remettre sur le circuit bancaire conventionnel ses fonds, évidemment, ça apporte un petit peu de rentabilité à la plateforme. On n'a pas voulu introduire la publicité dans le modèle. On a signé la charte de protection des données des utilisateurs, donc on ne vend pas les données, sachant que c'est un commerce extrêmement juteux. Pour info, à chaque fois que tu vends les données d'un utilisateur actif par jour, ça représente 4 dollars par jour par utilisateur. Donc, c'est une masse d'argent gigantesque. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que cet utilisateur, tu peux créer des catégories pour faire du data mining supplémentaire. On refuse de faire ça. Donc, on est un peu à contre-courant sur ça. Donc, on a signé également la charte de Own Your Data suite à Cambridge Analytica. Donc, on est vraiment très aligné là-dessus. Donc, pour l'instant, si un cinéaste veut mettre des heures de serveur, ben, bienvenue. C'est-à-dire que ça va attirer des jeunes, ça va attirer d'autres inspirations, ça va attirer des gens qui vont vouloir consommer du contenu, qui vont peut-être s'inspirer également pour faire d'autres choses parce que justement ce cinéaste est là. Donc sur Origi, tous les utilisateurs deviennent des influenceurs potentiels puisque tu ne sais jamais quand est-ce que ton contenu va être intéressant pour qui, parce qu'on joue beaucoup sur les matchs entre « je veux devenir cinéaste » Je suis cinéaste, donc on fait des matchs entre les users, donc c'est assez amusant. Donc aujourd'hui, le business model, au lieu de payer des millions de dollars en publicité à Google et être à perte parce qu'on paye de la pub pour gagner des utilisateurs, on s'est dit, bah, tiens, soyons plus intelligents, ne payons pas des millions de dollars pour gagner des millions d'utilisateurs, allons moins vite. Et acceptons peut-être d'être pas tellement break-even sur les commissions. Donc, ouvrons le plus possible à ce que ça soit le plus accueillant possible pour des gens bien. Donc, on fait un travail. Chaque jour, on élimine entre 150 et 200 comptes de spammers, trolls et autres choses de n'importe quoi, des choses moins sympas, parce qu'on veut garder un petit peu un côté cool de la communauté. Donc, c'est comme créer une ville digitale. Donc, aujourd'hui, tu ne payes pas pour entrer, il n'y a pas de publicité, il faut que tu te sentes bien. Et si tu te sens bien, évidemment, tu vas attirer des gens. Et là-dessus, on a deux chantiers avec deux banques, dont Nubank au Brésil, parce qu'on peut créer des produits de crédit, de capital, semilla, d'apport pour les entrepreneurs. On peut créer. Pourquoi? Parce qu'on a des scores. Donc, on fait du scoring. Donc, tu connais à peu près quelle est la connexion, la pertinence.
Fiabilité.
Voilà. Donc, si tu grimpes en niveau et tu gagnes des points, c'est formidable pour une banque. Donc, il y a d'autres projets dans le business case d'Origi qui vont apporter de la rentabilité, surtout des sources de revenus pour la plateforme. Après, on parle beaucoup de la pub en mal. parce qu'évidemment, on t'impose la pub et on ne te dit pas, écoute, on est en train de lire tes données, on est en train de faire du data mining. Mais si tu le souhaites dire, bah, tiens, moi, mon rêve, c'est d'aller sur l'Everest, ou mon rêve, c'est de faire une randonnée en Patagonie, eh bien, ça n'empêche pas de connecter tout ce qui va t'aider à aller en Patagonie et de facturer également des frais, non pas de publicité, mais si de communication entre les marques et les consommateurs du futur. Parce que moi j'ai écrit mon bouquin avec une Montblanc de mon grand-père. Mon bouquin de poésie a été écrit avec la Montblanc de mon grand-père. Je trouverais formidable que pour mon deuxième bouquin, Montblanc ait envie de parler de moi et moi de Montblanc. Il n'y a aucun problème. Donc, je trouve qu'il y a une noblesse entre les marques et les histoires et les rêves des gens. Et ça, on a une ressource assez importante. Là, on a dépassé les 600 000 interactions par mois. Donc, je pense que dès la barre des 100 000 utilisateurs, on va commencer à aller chercher 2 millions, 3 millions d'interactions par mois. Et là-dessus, peut-être, pourquoi pas, aller voir Montblanc ou aller voir Nike ou aller voir Apple et leur dire, tiens, c'est sympa, on a créé une communauté différente où les gens peuvent tomber amoureux de ton produit parce que ça match avec leur histoire et leurs dreams.
Une autre chose qui nous allie, c'est que dans ma main, moi, j'ai un stylo à encre japonais avec lequel j'ai écrit l'histoire de la mort de mon grand-père aux mains japonais. Histoire que Pilote pourrait me contacter également. Jean, si donc Urigi, je mettrai tout ça dans les show notes pour te suivre, connecter avec toi, quel serait le moyen préféré?
Non, évidemment, sur Urigi, tu peux chatter en privé avec moi. Donc, c'est Jean Cloto partout. Je suis peut-être petit à petit devenu influencer dans plusieurs plateformes, donc LinkedIn, Instagram, Twitter, je suis très présent. Je suis présent aussi sur TikTok. Et tu peux me trouver, mon WhatsApp est public. Donc, j'ai un WhatsApp public qui est sur tous les réseaux sociaux. Et en général, je réponds à 95% certaines semaines de taux de réponse. Parce que je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est de ne pas pouvoir parler aux gens et de pouvoir contacter les gens, même sur une mauvaise idée. Et donc, tu peux me trouver partout. Mon email, c'est jeancloto@origi.net, parce qu'origi.com, c'est une bijouterie au Japon. Il fait des bijoux formidables en bois, des choses formidables. Donc, origi.net, c'est mon courrier électronique. Et voilà, donc je suis plutôt très accessible. Évidemment, si tu as ton profil dans Urigi et que je vois ton niveau de potentiel grandir, eh bien, je vais être tenté également de faire un apport sur tes premières publications. Je vais même, si tu publies ton bouquin ou ta chanson préférée ou ta playlist préférée, je vais être tenté de contribuer.
Imagine-toi, ça tombe bien, j'ai un poème que je viens d'écrire, je vais me le faire. Jean, on est loin, mais on est proche. Merci beaucoup de ton temps.
Merci, Minter. C'est un bonheur d'être parmi la famille Dial.
Pareillement. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A convinced man.
I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel. Trust is the reason, still I won't tell the lie. I sit here passively, hopeful you respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's
no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready for an arrest.
I'm a convinced man in the arms of a woman.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.